Bienvenue à l'écoute, bonjour. Avec nos invités, nous allons évoquer ce matin la mise en place dans notre diocèse de la cellule d'accueil et d'écoute pour les personnes victimes d'abus sexuels dans l'Église. Le pape François l'a dit, les abus sexuels dans l'Église restent la plaie la plus douloureuse de l'Église sur ces 20 dernières années. En France, dans un rapport rendu public en 2021, rapport commandé par la Conférence des évêques de France, la Commission indépendante des abus sexuels dans l'Église a relevé quelque 330 000 victimes en 70 ans, soit des années 50 à ce jour. 330 000 victimes et environ 3 000 prêtres coupables. Suite au rapport de la Commission indépendante des abus sexuels dans l'Église, ont été mis en place un certain nombre de dispositifs de réparation, notamment la Commission reconnaissance et réparation et l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Le pape François a toujours prôné la tolérance zéro face à ces crimes et il a exhorté l'Église à accueillir et écouter le cri de douleur des victimes. Dans le droit fil du rapport de la Commission indépendante et sur les recommandations du souverain pontife, la Conférence des évêques de France a incité les diocèses à déployer des cellules d'accueil et d'écoute destinées à toute personne victime de harcèlement, d'agression, d'abus sexuels commis par une personne en responsabilité au sein de l'Église. Le diocèse de La Réunion, malheureusement nullement épargné par cette plaie douloureuse, met un point d'honneur à suivre les directives de sa tutelle nationale. À l'initiative de Mgr Gilbert Aubry, évêque émérite, et sous la responsabilité de Mgr Pascal Chanting, une cellule d'accueil et d'écoute est désormais à la disposition de toute victime en recherche d'accompagnement. Pour nous en parler, nous accueillons ce matin Anne et Guillaume. Madame, Monsieur, bonjour.
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 D'abord, dans un premier temps, pour quelles raisons avez-vous accepté cette mission, Anne ?
C'est un sujet qui me touche depuis longtemps. Et c'est un sujet qui fait beaucoup de mal à l'Église. Et souvent, on n'écoute pas assez les victimes, ou on leur laisse pas assez la parole, ou on ne leur dit pas assez, on vous croit. Et on veut protéger l'Église. Mais en la protégeant, on fait du mal et à l'Église et aux victimes. Donc c'est pour ça que je souhaitais m'engager.
Guillaume.
Oui, j'ai suivi les travaux de la commission qui avait évoqué et longuement planché sur ce dossier. J'avais été très surpris par l'ampleur du mal. Et on m'a proposé de mettre mes compétences juridiques au service de cette commission, ce que j'ai fait volontiers. En prenant cet aspect par le droit, mais également par l'aspect psychologique qu'on nous a enseigné.
Combien de personnes composent cette cellule d'écoute et sur quels critères ont-elles été choisies ?
Alors, il y a 9 personnes dans cette cellule d'écoute et nous avons essayé d'avoir une équipe pluridisciplinaire ou pluriprofessionnelle. Donc avec des spécialistes de l'écoute et des personnes. En tout cas, toutes ces personnes ont déjà suivi plusieurs formations et sont en capacité d'écouter des personnes victimes. Et en tout cas, on a été formés pour ceux qui ne l'étaient pas. Et notre dernière formation était sur la victimologie, qui est un aspect un petit peu différent encore de l'écoute, de formation d'écoute.
Par exemple, ouais. Il y a des personnes du milieu juridique. Des médecins également, sans doute,
des psychologues. Des médecins, des psychologues, des assistantes sociales ou assistants sociaux.
Et des personnes issues de la...
Religieux.
Et personnes issues du secteur social.
Alors, à partir de quelle date précisément cette cellule d'accueil sera-t-elle opérationnelle ?
Elle l'est dès maintenant.
Elle l'est dès maintenant.
Elle a déjà entamé ses travaux et dès maintenant, de manière plus... Nous organisons la montée en puissance de la cellule avec un affichage dans les églises pour communiquer le numéro de téléphone, pour inviter les personnes qui se reconnaissent comme victimes à se faire connaître précisément. Et vous nous donnez l'occasion aujourd'hui de faire connaître l'existence de cette cellule et de le dire.
Vous avez déjà accueilli des personnes. Actuellement, il y a des personnes qui sont en chemin, si je puis dire, qui sont accompagnées.
Oui. Oui, mais on ne vous donnera pas à ce stade le nombre, la composition, ni l'étendue de nos travaux.
Très bien, très bien. Alors, L'écoute, dans ces cas si particuliers, exige attention, bienveillance, empathie. Est-ce suffisant face à des personnes, pour ainsi dire, blessées à vie?
Alors, on n'écoute pas tout seul, on écoute à deux, en équipe, parce que c'est d'abord parce que c'est une façon de dire que c'est l'Église tout entière qui écoute à travers les deux personnes. Ça permet de s'aider l'un et l'autre quand c'est un petit peu difficile. On écoute le reste de l'équipe prie aussi le jour où l'écoute se fait. Donc le Seigneur est avec nous au moment de cette écoute. Voilà, on le fait en église. Et puis ça nous permet aussi une relecture à deux de ce qui s'est passé, de pouvoir aussi que l'un puisse reprendre si l'autre comment dirais-je, et peut être un peu gêné ou un peu par ce qui se passe, l'autre est à même de prendre la suite. Peut-être, Guillaume, tu peux rajouter...
Alors, le terme d'écoute est très important. On a évoqué le mot d'accompagnement tout à l'heure. Le terme d'écoute est plus important encore. C'est vraiment être à la disposition de la personne pour recueillir sa parole, sans juger, sans vérifier si c'est vrai ou non. Ce n'est pas notre rôle. On recueille cette parole, on l'entend, on retranscrit intégralement ce qu'elle nous dit. On lui pose des questions, parfois de manière... c'est toujours très difficile de poser les questions, de les formuler, donc on peut les formuler à deux. La cellule, en principe, est composée d'un homme et d'une femme pour écouter. Et on va ainsi faire naître des questions de la personne sur la suite de ce qu'elle peut obtenir ou attendre. Mais l'idée, surtout, c'est qu'elle puisse se décharger de son fardeau auprès de la cellule, sachant que ce fardeau, c'est pas le sien, c'est celui de l'Église. C'est pas elle qui est la coupable, et c'est ce qu'elle doit comprendre à ce moment-là. Elle est victime d'un abuseur, elle n'est pas coupable, et c'est l'abuseur qui, lui, doit être chargé de la peine qu'il a provoquée chez l'autre.
Parce que souvent, ces personnes qui viennent à votre rencontre affichent une culpabilité, une grande culpabilité.
Peuvent afficher une culpabilité, précisément d'avoir... une culpabilité peut-être de blesser l'Église en révélant ce qu'elle connaissent, et puis la culpabilité d'avoir provoqué quelque chose. Et c'est l'inversion qu'on veut obtenir, et c'est déjà beaucoup quand la personne se présente et qu'elle se décharge de ce qu'elle a subi, ou de ce qu'elle dit avoir subi, puisque à ce stade, on n'est pas juge, on ne contrôle pas.
Et puis ces personnes victimes ont pu déjà déposer déjà une plainte, et comme c'est le cas aussi pour toute personne victime d'abus, même dans la société civile, parfois c'est tellement dur à entendre qu'on ne veut pas l'entendre ou qu'on ne peut pas l'entendre, et donc ces personnes-là souvent après se referment et ne veulent plus parler, ou ont l'impression que on les a pas écoutés, et donc peuvent se détourner de l'Église, et puis les conséquences de ces abus sur la personne sont importants et empêchent cette personne de se construire. Et donc là, c'est dire: nous, on vous écoute, on est là, on vous écoute, on vous croit, on vous écoute.
La cellule est soumise à une stricte obligation de confidentialité et de secret. Toutefois, conformément au code pénal, elle se doit d'informer les instances judiciaires de toute situation relevant de la compétence. C'est la règle incontournable.
Alors, nous ne sommes pas... vous évoquez l'article 40 du code pénal, sans doute. Nous ne sommes pas en charge d'une mission de service public. Nous sommes des citoyens comme les autres. Donc, on entend ce que nous disent les personnes. Et ensuite, on peut essayer de les aider à trouver une solution, une piste juridique. Mmh. Mais nous ne sommes pas procureurs, nous ne sommes pas leur avocat. C'est à eux ensuite de décider. Ce qui est certain, c'est que l'évêque sera informé de toutes les écoutes et toutes les auditions qui se dérouleront. Et à ce moment-là, l'évêque pourra décider lui aussi de donner des suites pénales, civiles ou canoniques. Mais les membres de la cellule d'écoute n'ont pas de pouvoir d'initiative. Oui. Écouter, c'est déjà beaucoup. Décider ensuite, c'est autre chose.
Et nous ne sommes pas habilités à écouter des mineurs.
Pour quelle raison?
parce que ça fait partie en fait du référentiel de toutes les cellules d'écoute qui ont été mises en place par la conférence des évêques de France. Et donc si nous recevons un appel d'une personne qui veut nous parler de son enfant qui a subi quelque chose, nous la redirigerons vers nous l'accompagnerons et nous l'aiderons à se diriger vers les instances juridiques de la société. Mais nous ne sommes pas appelés à écouter les personnes mineures.
Vous n'êtes pas non plus thérapeute et selon les cas, vous dirigez les victimes vers les praticiens qui s'imposent.
Oui, ni juriste, ni thérapeute. Ni... Donc, on n'a pas vocation à suivre dans le temps les personnes, ni à essayer de les guérir ou de les soigner. C'est pas au cours d'un entretien qu'on peut le faire, on n'a pas les compétences pour ça. Même si certains ont ces compétences, ce n'est pas l'objectif de la cellule. L'objectif de la cellule, c'est vraiment de les entendre, de les accueillir et de leur dire qu'ensuite, elles peuvent faire un point sur leurs droits. Nous, on donnera des axes, mais en aucun cas, on se substituera à des thérapeutes ou à des médecins ou à des psychologues.
J'en ai fini avec mes questions, mais peut-être avez-vous une conclusion ou des précisions à apporter sur l'un ou l'autre sujet.
Alors nous sommes aussi en lien avec une association de victimologie ici. Donc oui. Ses coordonnées sont sur seront sur l'affiche et puis sur le site internet quand le document sera sur le site internet et nous dirigeons en fait nous travaillons avec eux et nous dirigeons les personnes qui veulent un suivi justement et un accompagnement plus développé auprès de cette association, mais aussi auprès... Enfin, on essaye de vérifier que la personne est entourée, qu'elle n'est pas toute seule, et on essaye de comprendre quels sont ses besoins pour pouvoir mieux la diriger vers les endroits où elle en a besoin. Voilà.
Je pense que pour conclure, nous pourrions laisser deux contacts, un courriel, écoute victime 974 @associationdiocésaine.re. Écoute au singulier, victime au pluriel. Écoute victime 974 @associationdiocésaine.re et un numéro de téléphone 06 92 380 837.
Étant précisé qu'on ne répondra pas directement au téléphone, on laissera la personne laisser un message. Elle sera rappelée dans des très brefs délais pour éviter d'avoir immédiatement un début d'écoute, ce qui n'est pas la fonction au téléphone, ce qui n'est pas, c'est pas la meilleure condition.
Oui, ce numéro de cellule d'écoute est vraiment pour les personnes victimes ou un membre de la famille qui souhaite nous contacter. C'est pas un numéro de téléphone pour la presse. Voilà. Si on veut contacter ou toute autre personne qui voudrait des renseignements, c'est vraiment à destination des personnes victimes.
Précision qui s'impose. Merci Anne, merci Guillaume.
Merci.
Merci.